Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Monseigneur Bruno Valentin, l'intervenant tous les jours de cette semaine, vous êtes donc resté fidèle et vous êtes fidèle à cette église, une église qui traverse, selon les époques, différentes crises, différentes vagues. Alors, dans ce livre, paru aux éditions de l'Emmanuel, le chapitre 2, qui est intitulé « Participer », vous donnez cette image, avec un peu d'humour, sur le pont d'Avignon. Tout le monde se rappelle cette comptine de « Sur le pont d'Avignon, on y danse ». Est-ce qu'on peut danser aujourd'hui dans l'église ? Un extrait de votre livre, vous écrivez page 57. Or, la fiabilité d'un pont et sa capacité à remplir son office tiennent d'abord à la solidité de son ancrage de part et d'autre. Que reste-t-il aujourd'hui de l'ancrage de l'Église sur chacune des berges qu'elle est supposée relier, celle de l'homme et celle de Dieu ? C'est une des questions donc écrite, hein, noir sur blanc. C'est votre plume, Monseigneur Valentin. Alors, que reste-t-il sur cet édifice, donc non pas du pont d'Avignon, mais l'édifice de l'Église ?
J'ai voulu jouer sur cette image du pont d'Avignon parce que vos auditeurs qui ont déjà eu l'occasion de se rendre à Avignon ont peut-être fait la même expérience que moi, qui était une expérience de déception, en fait, la première fois que j'ai vu ce pont, puisque il a été construit avec 22 arches, de manière à enjamber dans toute la largeur nécessaire le Rhône à la hauteur d'Avignon. Mais en fait, aujourd'hui, il n'en reste plus que 4. Ce qui veut dire que ça ne sert plus à rien, le pont d'Avignon. C'est juste une ruine. Voilà. Alors, une ruine photogénique, une ruine historique, mais une ruine. Parce qu'un pont qui ne relie plus les deux berges entre lesquelles il est bâti ne sert plus à rien. Et au fond, il faut avec lucidité se poser la question pour l'Église. Sa raison d'être, c'est de relier, comme un pont, Dieu et les hommes. D'avoir une jambe solidement jetée sur chacune de ces deux berges. Et il faut aujourd'hui se poser la question de l'une et l'autre de ces deux jambes, de l'un et l'autre de ces enracinements. Parce que pour ce qui est de l'enracinement en Dieu, c'est la question de la sainteté de l'Église. Et on voit bien à travers tous les scandales d'abus, à travers tous ces phénomènes qui heurtent à bon droit tellement les consciences et l'opinion publique, que soutenir encore aujourd'hui que l'Église est sainte, donc ancrée en Dieu, c'est un vrai défi. Et de l'autre côté, pour ce qui est de l'ancrage au milieu des hommes, c'est toute la question de la capacité de l'Église à être encore audible, reçue, véritablement ancrée dans son temps et dans sa génération. Et là encore, il y aurait fort à dire. Et donc, à partir de cette image d'un pont qui ne relie plus rien, je crois qu'il faut se poser la question de se dire, mais notre Église aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus qu'une ruine historique ?
Cette ruine historique, dans ce livre aussi, vous donnez un petit peu, vous rappelez aussi cette image de la fresque aussi de Saint-François d'Assise, hein, avec l'église de Saint-Damien. Quel est le lien aujourd'hui entre Saint-François d'Assise, hein, 13e siècle, et puis dans ce 21e siècle, cette église du monde qui semble parfois, hein, un peu tomber en ruine? Alors, on en est où? Quel est le lien entre François d'Assise et l'Église d'aujourd'hui?
Oh, les liens, ils sont multiples. Et c'est pour ça que je me suis appuyé plus qu'au plan de l'anecdote. J'ai vraiment essayé, oui, de méditer sur cette fresque de Giotto représentant François priant dans la petite église de Saint-Damien. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles et d'enseignements à tirer. Depuis le contexte de l'époque, François a surgi dans l'époque d'une église en crise, au moins autant que l'est notre église aujourd'hui, jusqu'à la manière dont François a travaillé pour rebâtir l'église, puisque c'est l'appel bien connu du crucifix de Saint-Damien, « Va et rebâtis mon église qui, tu le vois, tombe en ruine », lui dit ce crucifix qu'il découvre dans le petit oratoire de Saint-Damien. Et donc, François va d'abord prendre cet appel au pied de la lettre, c'est-à-dire il va se mettre à retaper l'oratoire de Saint-Damien, avant de comprendre que la mission que Dieu lui confie est beaucoup plus large, que c'est la restauration de l'Église avec un E majuscule. Et Giotto a magnifiquement médité sur cet élargissement de l'horizon de la mission de François dans la façon dont il le représente en prière dans l'Église. Et c'est ce que j'explique dans mon livre en montrant comment il y a vraiment trois espaces bien différents dans l'Église représentée par Giotto. Il y a le porche, il y a la nef et il y a le chœur, dans trois états d'effondrement très différents et qui nous permettent de réfléchir aujourd'hui aux différents aspects du chantier que nous avons et à la façon de le mener. Le porche, c'est tout ce qui est notre rapport au monde, notre capacité à être une Église attirante et accueillante. La nef, c'est toute la communauté que nous formons, notre capacité à être une Église qui tient debout, tout simplement. Et le cœur, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et il est beau de voir que c'est le cœur, dans la fresque de Giotto, qui est le moins effondré. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Le crucifix est là, et à l'endroit où est le crucifix, l'Église tient bon. Et ça m'a fait penser à l'incendie de Notre-Dame de Paris, où lorsque les portes ont été entrouvertes alors que Notre-Dame brûlait encore, ce qui a surgi aux yeux de tous à travers les images de la télé, c'est la présence de cette croix brillante dans la noirceur de Notre-Dame. Il y a quelque chose de l'ordre d'un message là, qui est de dire « Dieu n'abandonne pas son Église ». Dieu n'abandonne pas son Église, quel qu'en soit l'état de délabrement. Et c'est véritablement en nous tournant vers Dieu, en revenant à Dieu de tout notre cœur, en nous réancrant en Dieu, que nous trouverons toutes les ressources dont nous avons besoin pour rebâtir l'Église.
Faut-il retrouver une vie de prière, une vie intérieure, Monseigneur Bruno Valentin, cette vie intérieure et au fond, ce cœur à cœur entre moi et le Père?
Au nom même de ce que je viens de dire brièvement, la réponse est un oui très fort. Hein. C'est-à-dire que notre capacité à rebâtir l'Église, à reconstruire nos communautés, à les faire évoluer en fonction des nécessités du moment, ne viendra pas d'abord de notre inventivité, de notre créativité, de notre capacité à prendre appui sur les savoirs managériaux des entreprises d'aujourd'hui. Tout ça, c'est utile. Mais l'essentiel, c'est notre ancrage en Dieu. Et donc, bien sûr que la vie de prière, c'est le préalable à être des chrétiens capables de prendre aujourd'hui pleinement leurs responsabilités dans l'Église comme dans le monde.
Alors, vous écrivez, on ne perd pas aussi de vue, vous êtes appuyé aussi sur cette image aussi du pont d'Avignon. Vous écrivez, si le pont, c'est le Christ lui-même, si nous en sommes les pierres vivantes, chacun selon sa vocation propre, il faut en effet examiner le ciment qui lie les pierres entre elles et qui, bien sûr, fait la cohérence et la solidité de l'ensemble. Ce ciment, c'est l'Esprit Saint. Si cet Esprit Saint, si ce ciment s'effrite, Monseigneur Bruno Valentin, est-ce que ça met en péril ce pont d'Avignon et ce symbole aussi dont nous évoquons avec ce parallèle avec l'Église qui semble, je dis bien qui semble tomber en ruine?
Alors l'Esprit Saint ne s'effrite en aucune manière, puisque l'Esprit Saint c'est Dieu, hein, et que
ça reste imagé.
En l'occurrence, c'est pas Dieu qui s'effrite face aux effondrements auxquels nous assistons. Par contre, toute la question, c'est notre capacité à nous laisser véritablement imprégnés par l'Esprit Saint, notre capacité à nous laisser saisir et habiter. C'est-à-dire que c'est pas l'Esprit Saint dont la force d'adhésion aurait baissé. La question, c'est nous laissons-nous faire par l'Esprit Saint.
Ça, c'est une autre question. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour, au fond, réveiller ou éveiller ce désir de réveiller ce chemin peut-être de vie intérieure, de silence et de cœur à cœur pour entrer en présence du Père?
Oui, moi, je crois que pour beaucoup d'entre nous, les expériences de confinement successifs qu'on a vécues ces derniers mois ont redonné le goût et même une véritable opportunité à la vie intérieure, au silence, à sortir de rythmes de vie peut-être artificiellement remplis par toutes sortes d'activités dont finalement le ralentissement ne m'aura pas finalement trop pesé. Je crois que, bien sûr que nous avons la capacité à retrouver pleinement la densité de notre vie intérieure et à redécouvrir que c'est cette densité de vie intérieure qui fait de moi un homme, une femme pleinement épanouie.
Et au fond, cette vie intérieure, hein, ça a donné aussi pour résultat et cadeau de nombreux saints dans l'Église.
Absolument, absolument. La sainteté entendue comme l'émergence de figures comme François d'Assise, qu'on évoquait tout à l'heure, comme Bernadette Soubirous et tant d'autres, cette sainteté, elle est toujours le fruit d'hommes et de femmes qui se sont laissés faire par l'Esprit-Saint en développant la richesse de leur vie intérieure.
Alors, à chaque crise, de nombreux saints se sont levés. Est-ce qu'on attend aujourd'hui, à travers toutes ces crises et les crises que nous connaissons aujourd'hui, sans relire, sans refaire l'actualité de ces derniers mois, Monseigneur Valentin, où sont-ils ? Est-ce qu'on est en attente de saints ? Où sont nos saints ? Sont-ils en marche ?
Alors, c'est un constat très intéressant qu'on peut faire quand on étudie l'histoire de l'Église et l'histoire de la sainteté. C'est que les saints, à toutes les époques, pousse précisément sur les lignes de fracture du monde à l'époque. Voilà. Un saint François d'Assise, puisqu'on parlait de lui à l'instant, n'est pas né de rien et nulle part. Il est né précisément sur l'une des grandes fractures de son époque, qui est l'émergence de la vie urbaine, l'émergence de la vie en ville, et tous les bouleversements que cela représente, à la fois à travers les guerres, les conflits entre les villes qui émergent et prétendent à l'indépendance, et les changements d'équilibre de vie entre la vie rurale et la vie urbaine. Il y a là une crise de société majeure à l'époque de François, l'émergence de la vie urbaine, et c'est précisément dans la ville d'Assise et dans la classe bourgeoise, c'est-à-dire des habitants du bourg, des marchands de draps d'Assise, que va pousser comme une fleur sur la fracture Saint François d'Assise. Et cet exemple-là, on peut le reprendre de mille façons jusqu'à notre époque. Voyez la manière dont un Saint Maximilien Kolbe pousse jusque dans la noirceur des camps de concentration. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans son cachot de Auschwitz. Et combien d'autres saints situés précisément là où le monde était en train de craquer à leur époque. Donc, je suis convaincu que, étant donné la gravité des fractures qui blessent notre monde aujourd'hui, sur ces lignes de fracture précisément vont naître les grands saints que nous reconnaîtrons demain et après-demain.
Monseigneur Bruno Valentin, merci de votre présence ici dans nos studios. Nous enregistrons à Lourdes, tout près de ce lieu, grand lieu de sainteté, puisque lieu d'apparition de la très sainte Vierge Marie à la petite Bernadette. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous demain à cette même place, la même heure. Rebâtir ou laisser tomber l'Église au cœur, eh bien, c'est tout le programme de la semaine.
À demain.